Au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Si le bonheur appartient à ceux et celles qui se lèvent tôt, eh bien, notre invitée, elle est tout à fait comblée parce qu'elle fait partie de celles qui se lèvent très tôt. Marie-Josée Fizet, directrice de la Fondation du Cégep Édouard Montpetit, est avec nous. C'est vrai que vous vous levez tôt?
Oui.
Et depuis de nombreuses années?
Depuis de très nombreuses années.
Pourquoi donc?
C'est une drôle d'histoire. Un jour, je me suis retrouvée divorcée avec mes trois enfants et j'étais impatiente avec mes enfants. Quand arrivait l'heure du déjeuner, ils partaient à l'école stressés. Et au bout d'un moment, je me suis dit non, ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de sens de vivre ça, d'abord pour moi et ensuite pour eux. Et c'est là que je me suis dit, si je me levais juste un peu plus tôt et que je pensais à moi une heure, bien, ça ferait toute la différence.
Ça fait diminuer l'angoisse.
Ça fait diminuer l'angoisse. Et de toute façon, le restant de la journée appartient au reste du monde. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par aller marcher. Ensuite, me préparer, les réveiller, prendre le temps de déjeuner avec eux. Et après ça, on partait tous pour l'école puisque j'étais enseignante. Et j'ai toujours gardé cette habitude-là par
et
la
suite.
Et
vous continuez de marcher?
Oui, je continue de marcher. Je l'ai fait presque partout. Quand je vivais au Niger, j'étais dans une situation plus difficile, mais j'avais trouvé un moyen de me lever tôt, de faire de l'exercice, de marcher dans l'enceinte, de faire du yoga à l'extérieur. J'ai toujours pris cette demi-heure-là à l'extérieur pour m'aérer toute seule. Elle m'appartient et après ça, je peux partir ma journée.
Vous parliez du départ des enfants à l'école.
Oui.
Vous étiez vous-même enseignante à vos débuts de oui. jeune carriériste, mais
voilà.
Carriériste pas dans le sens
péjoratif. Non, j'ai très bien compris. Oui.
Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience d'enseignante?
Bien, on parle de plus de 20 ans de ma vie, donc c'est une longue expérience. Mm-hmm. J'ai adoré enseigner, je vous dirais 19 ans sur 20. J'aimais ça me lever le contact avec... J'enseignais aux adolescents. J'aime les adolescents, je les aime encore
beaucoup.
Donc,
niveau secondaire?
Secondaire, j'ai fait tous les niveaux. J'enseignais le français, l'anglais, j'ai fait du théâtre, du latin. J'aimais ça beaucoup, beaucoup. J'aimais leur contact. Et un jour, c'est moi qui s'est sentie dépassée. Et je me suis toujours dit, le jour où je ne serai plus intéressante, je partirai pour que mes étudiants, mes élèves se rappellent de moi comme une femme intéressante. Et je pense que j'avais beaucoup de choses à leur donner, principalement aux filles.
Ça prend beaucoup d'abnégation.
Et un jour, j'ai dit, c'est fini, c'est terminé pour moi. Je prenais mon livre de travail, je ne faisais plus de préparation de cours parce que c'était tellement rendu habituel pour moi. J'ai dit non, il est temps que je passe à d'autres choses.
Vous avez réussi à faire ça, ou à quitter parce que vous sentiez que vous n'étiez plus à votre place.
Il y a plein de choses qui est arrivé dans ma vie et j'ai dit, c'est l'heure maintenant. Ben, je peux vous dire, j'ai passé pour une vraie folle. J'ai des gens qui ont arrêté systématiquement de me parler. Mais vraiment, des collègues de travail. Là, parce que, j'étais promue. J'étais promis en tout cas, une belle carrière, même à la direction. Le fonds de pension, les assurances, comme si on vit pour ça. Et je regardais les gens autour de moi compter leurs années avant leur retraite. Je me suis dit, non, moi, jamais. Et les étoiles se sont alignées. Bon, j'ai pas toujours pensé que c'était des étoiles. Se sont alignées pour que j'aie un changement de vie. Et j'ai dit,
vous avez retrouvé, moi, ce que j'appelle souvent l'équilibre entre les deux pôle, c'est-à-dire le plaisir et l'utilité.
Oui. Oui. C'est vrai que je me sentais plus utile. Je ne me sentais plus utile à enseigner. J'avais l'impression d'enseigner do this, do that.
C'est ça. Et il faut retrouver sa portion de plaisir aussi.
Oui.
Le plaisir de pouvoir transmettre, de pouvoir communiquer, d'être... Parce que vous avez quand même été en lien étroit avec vos élèves. Vous avez fait des voyages avec vos élèves.
Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je suis allée jusqu'en Chine avec mes élèves. Et c'était extraordinaire. D'ailleurs, c'est en Chine, moi, où j'ai décidé que je changeais de vie. Avec mes étudiants, on a monté jusqu'en haut de la muraille de Chine et j'ai décidé que lorsque je redescendrais de la muraille de Chine, je n'étais plus la même personne.
Vous aviez frappé votre mur.
J'avais frappé mon mur et c'était ça. Et je suis encore en contact avec mes élèves, mes étudiants. J'en rencontre au cégep.
Ah oui,
oui,
c'est formidable.
Il y en a par Facebook qui me retrouvent et j'ai souvent, vous m'avez marqué, je me rappelle quand vous êtes partie. Certains m'ont écrit tout le long que j'étais partie aussi.
Alors, on va faire un détour. Avant de se retrouver en Chine, on va passer par le continent africain, si vous voulez bien, oui. Avec Tikenja Fakoly. Ça, c'est pour vous quelque chose d'assez particulier. Juste un mot sur lui. Il est originaire de la Côte d'Ivoire. Il vit exilé au Mali à la suite de menaces de mort parce que ses chansons ne sont pas anodines. Elles évoquent les injustices que subit la population de son pays d'origine, mais aussi et surtout celles du peuple africain. Donc, ça vous rejoint beaucoup, Marie-Josée. Fakoly cherche à éveiller les consciences, ne craignant pas d'aborder les thèmes de l'oppression, de l'importance du respect des droits humains. Il a repris la chanson de Sting, An Englishman in New York, qui est devenu, sous la voix et la couleur de Fakoly, un Africain à Paris.
Maman, je pense à toi, je t'écris. Les trois étoiles à Casa. Tu vois, faut pas que tu. Ici, j'aime toi un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est pas la voix des ailes. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Aussi. Je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout, n'aie pas d'inquiétude. C'est un hôtel à brûler. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre vie. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre vie. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre vie. Je suis Africain à Paris.
vient d'entendre Tikenja Fakoly. J'ajoute juste ceci. Lors d'un festival de rap à Dakar, au Sénégal, en décembre 2007, Fakoly demande entre autres au président Abdoulaye Wade, ou Wad, je ne sais
Abdoulaye
plus.
Abdoulaye Wad.
Wad, qui était en poste alors depuis 7 ans, de quitter le pouvoir s'il aimait le Sénégal. Ça vous rappelle probablement une époque particulière à vous.
Ah oui, parce que, bon, d'avoir vécu principalement au Cameroun où on sait que c'est une dictature qui est très, très difficile. Paul Biya est là depuis maintenant une trentaine d'années. Il faut voir dans quelle résidence il habite aussi, dans quelle pauvreté vit sa population. Il ne quittera jamais le pouvoir. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul chef africain.
L'écart est incroyable, oui.
Il n'y a qu'un seul chef africain qui a quitté le pouvoir. Et c'est Nelson Mandela. Les autres restent là. On parle beaucoup de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Mais il est encore là. Il avait dit qu'il partirait.
Oui.
Il avait dit qu'il partirait. Il fait de grandes choses, mais il est encore là.
Et curieusement, Fakoly, qui avait dénoncé aussi toute cette situation, a été déclaré persona non grata par le ministre sénégalais de l'Intérieur en 2007, qui l'a obligé à quitter le pays dès le lendemain. Après 2 ans et demi d'interdiction de séjour au Sénégal, il a cependant été reçu par le président Wade le 31 juillet 2010, qui l'a même invité à séjourner à nouveau au Sénégal et à se produire sur le sol sénégalais. Le président Wade a quitté le pouvoir, quant à lui, le 2 avril 2012. Tout ça parce que vous nous avez, ça nous permettra de mieux comprendre la prochaine chanson, « Quitte le pouvoir », avec une rythmique qui est très africaine, à la façon, bien sûr, on a entendu tantôt Tikenja Fakoly avec un Africain à Paris, mais qui était une adaptation d'une autre chanson plus populaire, celle de Sting. Cette fois-ci, on sent vraiment l'âme africaine et à la lumière de ce que vous nous avez dit, Marie-Josée, on comprend mieux quelle est la douleur de ce peuple africain.
Voilà la porte, sort dans le calme, t'es qu'à la famille, sort dans le calme.
Quitte le pouvoir,
Moi, ce que j'aime de cette chanson-là, ce qui vient me toucher particulièrement, c'est que lorsqu'on voit des Africains qui émigrent, qui tentent de trouver un peu un rayon de soleil en Europe, on se rend compte dans quelle situation ils vivent. Ces gens-là font le choix de l'exil dans des conditions terribles et ne disent pas à leur famille ce qui se passe. Et pour avoir vécu dans ces pays-là, au Cameroun et au Burkina, moi, j'ai entendu des mères me dire « Mon fils fait des grandes études en France. » Et quand je passe par Paris et que je les vois vendre des tours Eiffel, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une petite larme pour ces mamans-là. Qui croient tellement en tout ça.
Et c'est le rayon du soleil, c'est l'espoir, c'est-à-dire...
C'est l'espoir d'une vie meilleure.
D'un horizon qu'on ne connaît pas, non. Qu'on cherche à atteindre, qui n'est peut-être pas aussi rose que celui qu'on imagine. Comme d'ailleurs vos rêves à vous, on peut parfois réaliser qu'on imagine une situation telle que lorsqu'on s'y retrouve, lorsque la réalité s'articule, c'est un peu différent.
C'est extrêmement différent. Et moi, dans mon travail, je vois aussi beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent étudier soit au Cégep, soit à l'ENA, et ils sont eux-mêmes confrontés à cette réalité-là où on...
Qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui a été pour vous le plus frappant de cette expérience africaine? Parce que vous avez séjourné dans différents pays.
Oui.
Il y a des fils conducteurs, je présume, d'un pays à l'autre, mais il y a aussi sûrement des différences d'un pays à l'autre.
Oui, d'un pays à l'autre.
Mais est-ce qu'il y a un événement, une valeur, une découverte qui vous a, pour le reste de vos jours, imprégné?
Je pense que c'est, malgré tout, une grande solidarité qu'ils ont entre eux. Un village, on dit souvent, ça prend tout un village pour élever un enfant,
oui.
Et c'est vrai. Ils ont beaucoup cette façon-là. Le respect des personnes âgées aussi.
J'allais dire.
Ça m'a... Le respect du sage, le sage. On pense que Boukhar Diouf exagère avec son grand-père, mais pas du tout. Je l'ai vu, moi. Je me rappelle de Boubacari, qui était mon partenaire au Cameroun, et quand il me disait « Je vais aller voir mon père ». Ça voulait tout dire. Ou quand quelqu'un me disait « J'en ai parlé à mon père, j'en ai parlé aux sages. » Et ça, moi, ça m'a marqué beaucoup. Parce qu'ici, on parque les enfants, puis on parque les vieux aussi.
Un jour, lorsque j'étais journaliste, j'ai été à même de rencontrer un médecin africain qui était en gériatrie et qui m'avait dit « Vous savez, en Afrique, on dit que lorsqu'un vieux meurt, c'est une bibliothèque
qui
s'éteint. Oui. Et ça donne toute l'ampleur du respect qu'on peut avoir à l'égard des aînés. Ce sont des grands sages, ce sont eux qui ont la connaissance. Il faut donc les protéger pour qu'ils puissent continuer de nous transmettre ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont appris. Ce qui n'est peut-être pas nécessairement une valeur très cultivée en Occident.
Non, et pas juste en Amérique du Nord. On parle de l'Occident au complet.
On va faire une pause musicale à nouveau. Cette fois, on reste en Afrique, on s'en va au Mozambique avec le groupe Kapadesh qui a été formé en 1996. Là, la musique est vraiment très différente. C'est un groupe formé de 8 musiciens qui représente une mutation de la musique mozambicaine où s'entrecroisent avec bonheur les rythmes traditionnels avec le jazz, le funk, le rock, affichant sans complexe des influences jamaïcaines ou sud-africaines, sans aucun doute une référence essentielle de la scène mozambicaine. Voici Tsuke Tani Kapadesh. Vous aimez ce genre de musique, Marie-Josée?
Beaucoup. Beaucoup, ça me transporte. Je trouve que c'est des sons auxquels on n'est pas habitué.
Vous avez écouté beaucoup de musique, vous, quand vous étiez en Afrique?
Peu.
Peu? Étonnant.
Étonnant. D'abord, la musique africaine était, à part au Burkina Faso, oui. Mais à Maroua, elle était peu accessible. C'est drôle parce que où j'étais, j'entendais régulièrement du Céline Dion. T'es à Maroua, dans le fin fond... T'entends Céline Dion, t'entends Michael Jackson.
Il fallait
vraiment que tu ailles dans des endroits. Bon, quand tu allais en brousse, là, des fois, on avait des musiciens, tout ça. Mais les Africains eux-mêmes connaissent peut-être un peu plus depuis les 10 dernières années par Angélique Kidjo, par Kenja Fakouli, par Amadou et Marianne, commencent à connaître leur musique. Mais quand on est très, très reculé, ce qui les intéresse, c'est la musique occidentale.
D'où l'importance de protéger les valeurs culturelles.
Oui.
Avec l'industrie, on parle beaucoup maintenant de l'industrie culturelle. Ça, voilà. Ça peut être très péjoratif.
Par contre, le Burkina Faso,
oui,
a une richesse culturelle extraordinaire qu'il diffuse beaucoup.
Parlez-moi de la Chine rapidement, en une minute, parce que vous m'avez parlé de cette muraille de Chine.
Oui.
On va entendre une pièce traditionnelle chinoise qui est vraiment magnifique, qui va terminer cette première partie d'émission. Ce voyage en Chine.
Ça a été extraordinaire. Je suis partie avec 30 étudiants et d'autres adultes. On est allé explorer l'autre. vraiment parce que la langue d'accès était l'anglais. C'était dans un contexte comme celui-là. Donc, il devait communiquer avec les Chinois en anglais. Et les Chinois ne sont pas faciles. Même si c'était l'année des Olympiques, les Chinois ne sont pas faciles à communiquer. Et on a découvert un peuple riche en histoire. Et moi, j'ai découvert des étudiants très intéressés par l'histoire. J'ai été très surprise. On disait toujours que non, ils ne sont pas intéressés. Mais à chaque fois qu'on allait dans un musée, il restait, il fallait aller les chercher un après l'autre.
Et pour vous, ça a été aussi une découverte profonde.
Moi, oui.
De ce que vous étiez profondément.
Effectivement, je me suis trouvée à un moment donné en Chine avec un nouveau projet. Je dis toujours, il y a une femme qui est montée jusqu'en haut de la muraille de Chine et il y en a une autre qui est redescendue.
红河。